France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h19. 15 volontaires vont vivre coupés du monde pendant 40 jours. Ils vont descendre dimanche soir dans la grotte de Lombrive en Ariège. Ils ne verront pas le soleil et n'auront aucun moyen de connaître l'heure. Bonjour Christian Clos.
Bonjour.
C'est vous qui êtes à l'origine de cette expédition totalement inédite. Jamais personne n'a mené une telle expérience dans le monde. Vous êtes explorateur, chercheur, directeur de l'Institut d'adaptation humaine. Pourquoi vous infligez un confinement supplémentaire alors que tout le monde ne rêve que d'une chose, de retrouver sa liberté ?
C'est peut-être justement pour ça. C'est qu'on a tous vécu en 2020 une année très difficile qui nous a provoqué beaucoup de sensations, de sentiments, puis des pertes de notion du temps, des pertes de des grandes désorientations en fait. Et nous aujourd'hui, on va essayer de comprendre scientifiquement. J'ai écrit un livre l'année dernière sur la Covid, Covid et après. J'ai réalisé en l'écrivant et en prenant tous les chiffres qu'on avait été incapable de bien gérer l'accompagnement des personnes durant cette crise. Et je me suis dit, il faut qu'on comprenne ce qui se passe dans le cerveau. Et c'est devenu deep time.
C'est juste le cerveau ou c'est le corps aussi? Corps et esprit, les deux?
Alors c'est bien sûr les deux, parce que on ne peut pas dissocier les deux. Cela dit, sur la chronobiologie, il y a déjà eu beaucoup de travaux, hein, notamment ceux de Michel Siffre et de Véronique Le Guen et bien d'autres durant les années 60, 70, 80. Mais jamais on n'avait travaillé sur le cerveau et surtout sur un groupe, sur la capacité d'une collectivité à recréer une synchronicité, une capacité de fonctionner, même quand on perd une certaine notion, par exemple comme le confinement.
Et pourquoi avoir choisi 40 jours précisément?
Alors, disons que 35 jours, c'est une durée qui a été montrée par la science comme étant une période assez classique de régénération, de compréhension pour un humain. Et puis ensuite, je me suis dit, bah finalement, pourquoi pas bosser à 40, puisque tous les grands textes fondateurs des différentes sociétés humaines, que ce soit le Coran, la Bible et même des textes philosophiques, parlent de 40 jours dans leurs textes. Je me suis dit, bah, y a peut-être une raison, donc on y va pour 40.
Alors, comment ça va se passer dans cette grotte? Vous allez faire des expériences quotidiennement? Il va y avoir des analyses qui vont être menées?
Absolument, on a toute une batterie d'examens, de tests, de protocoles qui vont nous permettre d'engranger une quantité d'informations, de données qui vont être ensuite analysées à la sortie. Et puis bien sûr, on a le avant-après, les IRM qu'on peut pas emmener dans la grotte, mais qu'on fait ici à Paris. Et finalement, tout ça va nous permettre de cartographier, de paramétrer, de mieux comprendre ces mécanismes qui aident une personne à s'adapter, à se transformer, la plasticité cérébrale bien sûr, mais aussi toutes les émotions, les sensorialités qui sont importante pour les humains face à une nouvelle situation.
Donc vous allez vivre dans cette grotte de Lombrive en Ariège. Comment l'avez-vous choisie ?
Voilà, j'ai vu beaucoup de grottes et puis quand j'ai vu Lombrive, il y a une sorte d'évidence. C'est une très belle grotte, c'est la plus grande d'Europe. En tout cas, elle est annoncée comme telle, mais c'est vrai qu'elle est gigantesque. Elle a des grandes salles, elle a des grands volumes, ce qui fait qu'on ne se sent pas oppressé dans Lombrive. Et ça, c'était important pour des novices, hein, parce que les gens qui rentrent dans cette grotte, ce ne sont pas des spécialistes, des gens très entraînés, ce sont des gens de la société de tous les jours, sans aucune péjoration là-dedans. Hein. Et donc cette grotte m'a paru évidente parce qu'on pouvait s'y installer, travailler et vivre cette situation hors du temps, hors du soleil, sans être dans une situation d'enfermement.
Il fait quelle température et est-ce qu'il y a un fort taux d'humidité dans cette grotte ?
Bon, alors c'est vrai qu'il fait pas chaud, hein, il fait 12 degrés.
12 ?
Et puis il y a 12, donc ça va encore. Par contre, c'est des 95% d'humidité qui sont un peu plus difficiles à supporter, donc on va être quand même soumis à une pression humide, à un froid généré par cette sensation d'être mouillé. Donc ça fait aussi partie un peu d'expérience, c'est un nouveau territoire de vie, comme on en connaîtra peut-être dans le futur de l'humain, des humains, avec les changements climatiques. Donc voilà, ce sont des nouveaux territoires, et on voit comment on s'y adapte, comment on s'y installe, et ça va nous aider à mieux comprendre les futures installations dans des conditions nouvelles.
Et justement, à propos d'installation, comment vous l'avez aménagé cette grotte? Il y a tout ce qu'il faut, il y a des lits, il y a un frigo?
Alors, il y a pas de frigo, mais par contre, il y a une gazinière quand même. C'est la première fois que je pars en expédition avec une gazinière, moi. Mais il y a un espace de vie. On a construit un plancher, on s'est installé. Il y a un espace d'habitation avec des tentes et de quoi dormir de manière agréable. Il y a un espace scientifique, évidemment. Et puis, il y a surtout la grotte. C'est un vrai espace dans lequel on va pouvoir évoluer, visiter, découvrir. Et cette notion de découverte, d'exploration, de sensation du milieu, ça fait partie des mécanismes d'adaptation et c'est très important.
Christian Clos, est-ce que vous avez eu du mal à trouver des candidats?
Alors, non, il se trouve que ces candidats, ce sont des candidats qui ont été sélectionnés il y a plusieurs années déjà pour d'autres projets du même acabit dans des conditions extrêmes. Et puis la Covid nous ayant empêché de partir faire des travaux dans les déserts ou les forêts tropicales qu'on mène habituellement, eh bien j'ai eu ce flash qu'on pouvait en France trouver des vrais milieux extrêmes, des vrais milieux particuliers, et notamment le monde souterrain qui est extrêmement riche en France. Et voilà, c'est l'autre volet du projet d'ailleurs, hein, c'est de montrer que même maintenant, on peut monter des projets, on peut croire dans le futur, on peut construire. Il y a des vrais problèmes, des vraies choses à résoudre, mais il faut aller de l'avant.
Et est-ce que vous les avez sélectionnés avec des critères particuliers? Est-ce qu'ils devaient avoir un profil spécifique?
Oui et non. Alors déjà, on voulait que le groupe soit mixte hein, et le plus paritaire possible. Ça, c'était fondamental dans le projet. On voulait des personnes plutôt de 25-50 ans, 25-45-50 ans, parce qu'il faut quand même garder une sorte d'unité dans la capacité de mener des études. Il fallait des personnes qui sont en bonne santé, physique et mentale, ce qui ne veut pas dire sportif, hein, mais bonne santé. Parce qu'on peut pas emmener des gens dans des conditions extrêmes qui sont déjà malheureusement avec des pathologies, parce que nous, on travaille sur des sujets sains. Et puis, alors deux petits détails, il faut que ce soit des droitiers et sans tatouage, puisque pour les IRM, c'était une nécessité, malheureusement. Donc voilà, quelques critères, puis ensuite, on a eu des centaines, des milliers de candidatures, et puis là-dedans, on a sélectionné.
Et vous avez déjà passé un peu de temps tous ensemble, vous vous connaissez bien ?
Oui, alors on a différents niveaux de connaissances, ça fait quand même 2 ans qu'on se côtoie, qu'on les prépare intellectuellement, pas physiquement, mais intellectuellement, à vivre des conditions difficiles, donc ils se connaissent un peu, certains se connaissent plus que d'autres, et puis il y a des nouveaux qui sont arrivés là il y a quelques semaines, peut-être encore d'autres qui vont arriver, voilà, c'est comme un petit hameau, où il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, puis des gens qui arrivent, et puis on doit quand même trouver le moyen de fonctionner ensemble, d'être en collectivité, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup moi, on a tout un volet scientifique sur cette collectivité, cette capacité d'un groupe à fonctionner, quels que soient finalement ses membres. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre.
Et si jamais il se passe quelque chose de grave, je ne sais pas, quelqu'un fait une crise d'angoisse, est-ce que vous avez un lien avec l'extérieur, un moyen de communiquer en cas d'urgence ?
Alors, pas pour une crise d'angoisse, je dirais. On n'a pas de vrai lien avec l'extérieur. Il n'y a pas de communication, d'aller-retour avec l'extérieur. On est vraiment en autarcie, isolé.
Il n'y a pas de système de téléphone, d'internet, de quelque chose.
Alors, il n'y a pas internet, il n'y a pas de téléphone, parce que tout ça, ce serait des indicateurs de temps. Cela dit, s'il y a vraiment quelque chose de très grave, plutôt un accident de type commotion ou autre, là, oui, on sortira la personne avec tous les systèmes qu'il faut. Et puis, par contre, pour tout ce qui est angoisse, tout ce qui est difficulté, moi, je compte sur le groupe justement pour aider les personnes. Et évidemment, moi, avec l'expérience que j'ai de plus de 20 ans de travaux dans des situations comme ça. Mais on va s'aider, on va tous avoir des problèmes, on va tous craquer, on va tous avoir peur et on va devoir s'entraider pour dépasser ça. Et c'est ça, moi je crois beaucoup à la force du groupe et je crois qu'on va pouvoir le montrer dans cette expérience.
Et une dernière question, Christian Clos, vous allez faire comment pour vous occuper en dehors hein, des moments où il y aura les expériences scientifiques? Vous allez apporter des livres, des jeux? Des films?
Alors oui, on a déjà beaucoup d'occupations avec la science, avec l'assainissement du camp. Vous savez, un petit village qui doit faire son électricité, qui doit produire son eau, tout ça, ça prend du temps et c'est ce qu'on va devoir faire. Gérer les déchets, toutes ces choses qu'on fait plus de nos sociétés. Et puis évidemment, à côté de ça, on a des loisirs, des livres, des discussions, des jeux, bref. On a de quoi s'occuper. Et puis il y a aussi peut-être ce retour au temps, de prendre son temps. Et quand on a plus la notion du temps, c'est peut-être le temps qui redevient le sens.
Christian Clos, directeur de l'Institut d'adaptation humaine. Bon courage pour cette mission scientifique que vous allez mener à partir de dimanche. Vous étiez l'invité du 5-7. France Inter.